Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h17, d'autres invités, on va être passionnés pendant un quart d'heure avec vous. Philippe Baptiste, le PDG du CNES, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je sais que c'est une journée compliquée parce que vous êtes au milieu de trois journées où l'Europe spatiale se réunit. On était avec Laure, on ne peut pas vous dire qui parce que c'est off, avec un grand patron il y a quelques temps du secteur qui nous disait « L'Europe spatiale est au bord de l'explosion ». Est-ce que c'est vrai ?
Non, je crois que c'est pas vrai. Et je pense qu'on va le voir aujourd'hui, quand seront annoncés les budgets qui vont être présentés, les budgets de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne.
Ouais.
Je pense qu'il y a un investissement très fort.
C'est-à-dire qu'ils vont remettre au pot les États.
Oui. Je pense qu'on va avoir une vraie augmentation des budgets de l'Agence spatiale. Et c'est une augmentation. Comment ça se construit pour vos auditeurs ? C'est vraiment. Chaque État qui va regarder les différents programmes et qui va dire, celui-ci m'intéresse, je vais mettre plus là, etc. Et à la fin, on fait une grande addition.
Et en trois jours, votre objectif, c'est 18 milliards
oui.
quand même,
hein,
l'objectif
de l'ESA. C'est l'objectif de l'ESA. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 18 milliards, ce qui est très ambitieux par rapport à la cible précédente. Mais je pense qu'on ne sera pas forcément trop loin. Et donc, moi, je suis assez optimiste. Je voudrais rappeler que, évidemment, il y a l'ESA, mais il y a aussi la position française. Et la Première Ministre, elle a déjà annoncé en septembre quelque chose qui est quand même très très fort. Elle a annoncé 25% d'augmentation pour le budget français, donc qui inclut aussi la contribution française à l'ESA. Et dans les trois prochaines années, ce seront 9 milliards qui vont être consacrés au spatial en France. Ça fait de la France le très grand champion du spatial en Europe, sans nombre d'un doute. Et on a nos super industriels, on a Thales, on a Airbus, on a Ariane Group, on a aussi nos équipementiers, et on a aussi toutes les start-up qui sont en train de pousser aujourd'hui en France.
Ouais.
Donc franchement, on a un terrain qui est exceptionnel et puis après une science qui est de très bon niveau. C'est un domaine de science et de techno en France et en Europe qui est juste exceptionnel et c'est un joyau qu'il faut conserver.
Mais justement, quand on revient à la question européenne, à vous entendre, on a l'impression que chaque pays fait un peu son marché dans ce qui l'intéresse et que c'est justement le problème de vision spatiale de l'Europe qui manque. C'est ça ou il y a des points de friction précis ?
Non, alors vous avez raison. Dans le mécanisme de fonctionnement de l'ESA, effectivement, il y a différents programmes qui sont proposés et puis chaque État fait son, comme
marché,
vous dites, fait son marché. Il se trouve quand même qu'à la fin, une fois que vous relevez un peu les copies des 22 États membres qui sont autour de la table de l'ESA, il y a quand même de grandes tendances qui sont quand même de grandes tendances lourdes qui se dessinent. Je vais en citer une qui me semble absolument essentielle et qui est aussi une très grande priorité de la France aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour du climat. Je pense que cette question-là, elle est essentielle. Pour rappeler simplement les choses, avoir des satellites d'observation de la Terre, ça permet de récupérer des données qui permettent de mesurer l'état de la Terre à l'instant T, aujourd'hui, c'est-à-dire en gros les émissions de CO2, les pollutions, les températures, les vents, etc. Ce sont des données essentielles pour comprendre la santé de la Terre aujourd'hui. Et surtout, ce sont des données qu'on va pouvoir réinjecter dans les modèles mathématiques de prévision climatique et qui vont nous permettre de comprendre comment vont évoluer les grands paramètres du climat demain. Et c'est un enjeu mais majeur. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas ces outils de prévision, il n'y a pas de politique publique possible parce que vous ne savez pas sur quel levier il faut tirer pour améliorer les choses.
Mais Philippe Baptiste, quand même, si ce grand industriel nous disait ça, l'Europe est au bord de l'explosion, c'est parce que, justement, vous dites l'excellence française, sauf qu'il y a d'autres pays qui disent, nous aussi on veut être excellent, notamment dans le domaine des lanceurs. Les Allemands veulent leur propre petit lanceur, les Italiens veulent potentiellement récupérer Vega. Ça, le problème, c'est que tout le monde veut être leader. On est leader incontesté, ça ne fait pas plaisir aux Allemands, aux Italiens.
Non, la France, grosso modo, c'est 50% du spatial européen aujourd'hui. Et c'est très clair, il y a une forte appétence de beaucoup de pays. Vous avez cité l'Allemagne et l'Italie qui sont déjà des poids lourds aussi en Europe dans le spatial. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe.
Oui, mais tout le monde
c'est
veut,
évidemment
tout le monde veut
une bonne nouvelle pour l'Europe.
C'est comme l'avion de combat du futur. Tout le monde veut tirer le manche.
Oui, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une croissance phénoménale du secteur. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour le climat, on en a besoin pour la science. Il y a un business aussi autour du spatial, parce qu'il y a les acteurs privés qui arrivent, des marchés nouveaux.
Et là-dessus, on n'est pas très en avance non plus, côté européen.
Alors, l'Europe investit moins dans le spatial que d'autres grandes puissances comme les États-Unis. Mais par contre, je pense qu'on a fait tout au long de notre histoire du spatial en Europe des choix et qui ont permis de construire de très grands champions. Aujourd'hui, si je prends, nos satellites aujourd'hui, Thales ou Airbus, mais il remporte sur un certain nombre de secteurs 80 ou 100% des appels d'offres ouverts internationaux ou mondiaux. Donc on a des champions à contester. Donc voilà, oui, il y a de la compétition avec l'Allemagne et l'Italie, c'est vrai, mais c'est vrai. Alors qui et puis des sujets où on a des sujets de crispation autour des petits lanceurs par exemple.
Et Vega, ouais.
Et des constellations de satellites aussi. On voit le projet européen, Iris 2, et en face, il y avait le projet OneWeb Telsat. Voilà, à un moment donné, il faut choisir.
Non, alors, Iris 2, c'est un projet. Il va y avoir des consortiums qui vont se proposer de le réaliser. J'espère bien que OneWeb et Eutelsat vont participer à ces consortiums, mais comme d'autres acteurs, tout ça n'est pas décidé. Il va y avoir un appel d'offres, une phase d'éligibilité, etc. Au contraire, je trouve que c'est un bon exemple.
Appel d'offres et concurrence, c'est le nouveau mot d'ordre.
Oui, ce projet qui a été vraiment porté par le commissaire Thierry Breton, beaucoup soutenu aussi par la France, par le président de la République, qui en a beaucoup parlé à Toulouse lors de son discours sur le spatial, c'est un enjeu majeur parce que c'est un moyen pour la France et pour l'Europe de reprendre de l'autonomie numérique. L'enjeu, c'est un enjeu avant tout numérique. Ça veut dire que c'est le moyen d'avoir de l'Internet à travers ces constellations de satellites, de l'Internet partout, au débit et avec des temps de latence bas. Et c'est un enjeu majeur pour la sécurité des États, mais aussi business, parce que demain, BMW, Renault, PSA, ont besoin de ça, s'ils veulent faire, par exemple, le véhicule autonome. Et je pense qu'ils ont
besoin de ne pas dépendre de la constellation d'Elon Musk.
Mais c'est ça l'enjeu vraiment de communication sur la commercialisation de l'espace, c'est d'expliquer sans cesse à quoi ça sert, ne serait-ce que pour embarquer les populations. Est-ce qu'on est suffisamment conscient, vraiment, de l'impact que ça peut avoir de prendre du retard en matière européenne et d'être dépendant des États-Unis? Est-ce que les États en ont vraiment conscience et même les populations?
Moi, je pense que tout le monde en est conscient. Alors, encore une fois, prendre du retard, je pense qu'il faut être très prudent sur cette analyse. Il y a des sujets sur lesquels l'Europe a décidé jusqu'à maintenant de ne pas investir. Le vol habité, des choses comme ça.
Donc, effectivement, ça change, attention, ça change.
Ça change. En tout cas, ça se discute. Et quand je dis pas investir, ça veut dire qu'on a fait le choix d'être partenaire des États-Unis. Mais il y a d'autres sujets où on est des leaders incontestés. Je reprends mes satellitiers, observation de la Terre, observation optique, aussi bien pour des questions de défense que pour des questions civiles. Galileo, avec un énorme succès de ce programme européen porté par la Commission, qui est le meilleur système de géolocalisation par satellite, 3 milliards d'utilisateurs. Les succès européens du spatial, ils sont très nombreux, ils sont très forts.
Alors, Philippe, Baptiste, on peut quand même parler de la frustration sur Ariane 6. C'est-à-dire que de trimestre en trimestre, on reporte le lancement. Maintenant, on dit, on espère fin 2023. Il a fallu d'ailleurs remettre au pot. Les Français, les Allemands, les Italiens ont remis au pot hier, justement. Ce lanceur, est-ce qu'il va finir par décoller? Et comment on va faire pendant plusieurs mois où on n'aura plus d'autonomie de lanceurs en Europe?
Alors, je commence peut-être par les bonnes nouvelles autour d'Ariane 6. On a eu, au cours des dernières semaines, deux très bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a vraiment quasi terminé les essais à feu, dernier étage du lanceur à Lampoldhausen en Allemagne. Ça faisait quand même un an et demi qu'on attendait ça. Donc, c'est vrai que ça a été long, ça a été compliqué, mais c'est fait. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait des essais à feu de ce type-là en Europe. Et donc, ça montre bien que sur des grands sujets industriels comme ça, quand pendant très longtemps on ne fait pas quelque chose, le jour où on doit s'y remettre, on perd de la compétence aussi, donc ça prend du temps de revenir. Bon, mais ça c'est fait. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le lanceur, il est érigé sur son pas de tir aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il est là, il est présent, on est en train de commencer les essais combinés. Donc, je veux dire, le projet, il avance. Maintenant, c'est un grand projet industriel, et donc effectivement, on est dans les derniers mois de développement, et dans les tests, qu'est-ce qui se passe? On découvre des choses. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, effectivement, tel matériau, contrairement à ce qu'on avait prévu en faisant des simulations sur un ordinateur, il ne résiste pas ou il ne fonctionne pas. Donc, il faut faire un peu de rétro-engineering, repartir, etc. Mais c'est pour ça qu'on fait des tests. Donc, oui, c'est vrai, les derniers mois sont pénibles. Mais le projet, il avance, il n'est pas du tout perdu. On va y arriver. Je voudrais dire quand même que c'est un lanceur qui, commercialement, il a trouvé son marché.
Bon. Est-ce qu'il se transportera des astronautes aussi dans l'espace? On va en parler.
Oui, parce que est-ce qu'il va y avoir des futurs Thomas Pesquet? Là, c'est une guerre mondiale des talents. Il y a une nouvelle génération d'astronautes français qui arrive.
Je voudrais rappeler les chiffres. On a eu l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a ouvert un appel à candidature avec de tête 22 000 candidatures.
22 000 candidats. Alors le résultat?
22 000 candidats. Plus de 7 000 Français parmi ces 22 000 candidats. Donc, ça montre bien quand même que la France est un grand pays du spatial en Europe. Je pense que Thomas Pesquet n'est pas pour rien non plus dans cette appétence voilà. Et donc on va avoir les résultats normalement de cette sélection dans les heures qui viennent.
Là.
Dans les heures qui viennent.
Bon, il y aura des Français dans la shortlist.
J'espère bien.
Bon, et qui va aller sur la Lune le premier, c'est comme Thomas Pesquet ou pas?
J'espère bien.
Bon, donc ça y est, vous nous annoncez comme le retour des Européens à bord. Pourquoi? Alors ça sera pas d'Ariane 6 au départ, mais est-ce que dans 10 ans on pourrait envisager que Ariane 6 puisse transporter au-dessus des astronautes?
Alors Ariane 6, on pourrait faire une version d'Ariane 6 qui serait capable effectivement d'envoyer des astronautes
en orbite
basse. C'est pas prévu du tout. C'est pas du tout prévu aujourd'hui parce que c'est des investissements très lourds, etc. Je pense que la vraie question, c'est pas tellement le lanceur. Moi, je pense que la vraie question aujourd'hui que doit se poser l'Europe, et c'est bien ce qu'a dit Emmanuel Macron, je pense quand il a ouvert ce sujet à Toulouse à propos du vol habité, c'est la question et de l'exploration humaine, c'est de savoir en gros, il faut que l'Europe fasse d'abord un pas politique, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui on veut le faire ou pas.
Ouais.
Et ça, cette question, elle n'est pas tranchée. Les conditions ont complètement changé. C'est beaucoup moins cher qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour beaucoup moins cher que la Station Spatiale Internationale. Donc l'Europe, si elle veut le faire, elle peut le faire. La Russie y va, évidemment, depuis très longtemps. Les États-Unis y sont, la Chine y va. Les Indiens vont avoir aussi les moyens de le faire dans les mois qui viennent. Donc il y a une question pour l'Europe aujourd'hui. Et il faut regarder quels sont les bénéfices économiques, les bénéfices scientifiques, les coûts. Il faut regarder tous ces équilibres. C'est bien le travail qui est mené en ce moment.
Merci beaucoup, Philippe Baptiste. C'est à quelle heure l'annonce pour les astronautes?
Dans l'après-midi,
on suivra ça avec un grand intérêt. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette interview en podcast ou en replay.